vide. Abîmé serait déplacé. Inachevé également. Tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse. Inadapté suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel. Une main sert à saisir, des jambes à avancer, et qu'il se tenait néanmoins au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles, mais y prenant part malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau, à la fois intruse et pourtant volonté du peintre. Au départ, la famille ne discerna pas le problème. Le bébé était même très beau. La mère recevait des invités venus du village ou des bourgs environnants. Les portières des voitures claquaient, les corps se dépliaient, risquaient quelques pas chaloupés. Pour arriver jusqu'au hameau, il avait fallu rouler sur des routes minuscules et sinueuses. Les estomacs étaient retournés. Certains amis venaient d'une montagne toute proche, mais ici, proche, ne voulait rien dire. Pour passer d'un endroit à un autre, on devait monter puis redescendre. La montagne imposait son roulis. Dans la cour du hameau, on se sentait parfois cerné par des vagues énormes, immobiles, mousseuses d'une écume verte. Lorsque le vent se levait et qu'il secouait les arbres, c'était un grondement d'océan. Alors, la cour ressemblait à une île protégée des tempêtes. Elle s'ouvrait par une épaisse porte en bois, rectangulaire, plantée de clous noirs. Une porte médiévale, disaient les connaisseurs, probablement fabriquée par les ancêtres qui s'étaient installés en Cévennes depuis des siècles. On avait bâti ces deux maisons, puis l'auvent, le four à pain, la bûcherie et le moulin, de part et d'autre d'une rivière, et l'on pouvait entendre les soupirs de soulagement dans les voitures lorsque la route étroite devenait petit pont et qu'apparaissait la terrasse de la première maison qui donnait sur l'eau. Derrière elle, en enfilade, se tenait l'autre maison où était né l'enfant, nantie de la porte médiévale dont la mère avait ouvert les deux battants afin d'accueillir les amis et la famille. Elle proposait du vin de châtaigne, que la petite assemblée buvait, extatique dans l'ombre de la cour. On parlait d'où, pour ne pas brusquer l'enfant si sage dans son transat. Il sentait bon la fleur d'oranger. Il semblait attentif et tranquille. Il avait les joues rondes et pâles, des cheveux bruns, de grands yeux noirs. Un bébé de la région qui lui appartenait. Les montagnes ressemblaient à des matrones veillant sur le transat, les pieds dans les rivières et le corps nappé de vent. L'enfant était accepté, semblable aux autres. Ici, les bébés avaient les yeux noirs, les vieux étaient minces et secs. Tout était dans l'ordre. Au bout de 3 mois, on s'aperçut que l'enfant ne babillait pas. Il demeurait silencieux la plupart du temps, sauf pour pleurer. Parfois, un sourire se dessinait, un froncement de sourcils, un soupir après le biberon, un sursaut lorsqu'une porte claquait. C'était tout. Pleurs, sourires, froncements, soupirs, sursauts. Rien d'autre. Il ne gigotait pas. Il restait calme. Inerte, pensaient ses parents sans le dire. Il ne manifestait aucun intérêt pour les visages, les mobiles suspendus, les hochets. Surtout, ses yeux sombres ne se posaient sur rien. Il semblait flotter, puis il s'échappait sur le côté. De là, les prunelles virevoltaient, suivant la danse d'un insecte invisible, avant de se fixer à nouveau dans le vague. L'enfant ne voyait pas le pont, les deux maisons hautes, ni la cour, séparée de la route par un très vieux mur de pierre rousse, érigé là depuis toujours, 1000 fois démoli par les orages, ou les convois, 1000 fois reconstruits. Il ne regardait pas la montagne à la peau râpée, le dos planté d'un nombre infini d'arbres, fendu d'un torrent. Les yeux de l'enfant caressaient les paysages et les gens. Il ne s'attardait pas.